Foi et tradition des chrétiens orientaux, une émission proposée par Jean-Pierre Anquiri.
Bonjour. Jean-Pierre Anquiri au micro de France Culture. Foi et tradition des chrétiens orientaux est réalisé ce matin par Michel Mestre et Brigitte Mazire. Les presses universitaires de France publient « Mémoire du génocide arménien », ouvrage à plusieurs voix, autour du journal de déportation de Varam Altounian et de son héritage traumatique par sa fille Janine Altounian. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Janine Altounian et Anaïde Termination, qui a bien des raisons de se passionner pour tout ce qui touche au génocide de 1915. Janine Altounian, de la première page du livre, je relève cette constatation. Le contenu de cet ouvrage pourrait être intitulé « Le génocide arménien dans le journal d'un père et dans la mémoire de sa fille ». Il a donc fallu deux générations pour que paraissent ces pages.
Oui, alors je dois vous dire qu'elles sont parues pour la première fois au temps moderne en 1982, mais au cours de cette enquête psychique que j'ai dû mener pendant tant d'années, je l'ai retrouvé constamment sur mon chemin. J'ai retrouvé constamment sur mon chemin ce manuscrit. Et il se trouve que lorsqu'il a été publié dans un petit ouvrage collectif en Italie, ayant pour auteur cet auteur hybride, c'est-à-dire les Italiens avaient donné pour titre, pour auteur, Janine et Varam Altounian. Donc, après cette publication, j'ai été saisie de la pertinence d'un ouvrage collectif ayant pour auteur ces deux auteurs, j'allais dire, amalgamés. Et j'ai éprouvé le besoin de faire le même travail au sein de, en France. Donc, il est réapparu alors que je l'avais déjà publié une fois.
Mais je crois que la première fois, il avait quand même été un peu enjolivé. Non ?
Non, pas du tout. Simplement, il n'était entouré de rien. Et donc, de cette façon, il était, je dirais... Enfin, il n'était entouré que des notes de son traducteur, Ricor Beledian, qui le rendait évidemment un petit peu appropriable. Mais c'est, comme vous disiez, c'est un témoignage brut. Pour que ces choses brutes et violentes... trouvent toute leur portée, à la fois psychique et à la fois politique, il faut qu'elles se retrouvent redupliquées, échoïsées. Et donc, vous avez l'impression que c'était moins fignolé. En fait, c'est l'inverse.
Anaïde Termination, vous revenez d'un voyage en Turquie. Oui. Avant de partir, vous m'avez dit « je vais à la recherche des souvenirs de ma famille ». Est-ce que rechercher les traces de sa famille avant, pendant et après le génocide, c'est un devoir pour tout Arménien ?
C'était pas seulement rechercher les traces de ma famille, encore que paradoxalement, je les ai trouvées. Brièvement, je voudrais dire que contrairement à toute attente, dans la ville de Mouche, j'ai été accueillie à la Maison de la Culture par un directeur qui avait fait venir de la ville de Bitlis, qui est quand même à 100 km de Mouche, un chanteur kurde qui, en 7 refrains, a chanté l'histoire de ma grand-mère enlevée dans cette région en 1889, c'est-à-dire 120 ans après.
Vous la avez première, raconté toute son histoire.
La première expérience a été terrible, c'est-à-dire cette mémoire vivante de l'histoire de ma grand-mère enlevée par un kurde est devenue mélopée chez les chanteurs kurdes et qu'on a fait chanter sur scène en mon honneur. Bon, entre guillemets, je mets entre guillemets. Mais ce qui pour moi était un pèlerinage, ce n'était pas cela. C'était la volonté d'aller sur la montagne sacrée dite de Surpkarabet, c'est-à-dire une montagne d'environ 2000 mètres d'altitude qui se trouvait au XIXe siècle, à 6 heures de marche à pied ou à cheval de la ville de Mouche, où affluaient les pèlerins depuis des siècles et des siècles, et qui était surmontée par un monastère Alors, le monastère dit de Soulpkarabet, c'est-à-dire le monastère consacré à Saint Jean-Baptiste le précurseur, et qui était un lieu de pèlerinage, enfin, un peu la Mecque des Arméniens, disons, de la région, si je peux me permettre cette comparaison. Et je savais que ce monastère était détruit. Donc, nous sommes arrivés, je n'étais évidemment pas seule, j'étais accompagnée par un groupe d'Arméniens d'Istanbul, qui, eux, savaient parfaitement le turc. Nous sommes arrivés, et ça, je le dis essentiellement pour Janine Altounian, qui a recueilli, qui a médité sur la transmission des restes. Là, tout était détruit. Tout était détruit de ce monastère fantastique. Il y avait des pierres, simplement, qui avaient été utilisées pour construire des maisons, des masures occupées par des Kurdes et par une nuée d'enfants merveilleux, avec des yeux bleu-vert ou des cheveux blonds qui me faisaient penser irrésistiblement à une généalogie, disons, à tort ou à raison, arménienne. Bon. Et là, j'ai fait un peu à l'inverse de ce qu'a fait Janine. J'ai lu un texte écrit par ma mère, en arménien, publié dans le journal Haratch en 1972, où elle décrivait ce monastère et le pèlerinage auquel il donnait lieu tous les ans, auquel elle assistait étant petite fille. Et j'ai terminé par l'évocation du massacre qui avait eu lieu sur place, avec des femmes et les enfants réfugiés dans ce monastère en 1915, l'horrible fin du père abbé du monastère, et le tout au milieu des pèlerins arméniens et surtout de cette foule de Kurdes qui m'écoutaient sans m'entendre. Voilà. Donc ça, c'est, je veux dire, le fait de présenter aujourd'hui le livre de Janine Altounian et le traumatisme qu'elle a vécu à travers l'histoire de son père et qu'elle a surmonté, elle le dit dans son livre, grâce à deux cures psychanalytiques et qui lui a permis de créer une œuvre, car Janine Altounian a une œuvre, au moment où nous parlons de ce livre. Et moi, j'ai plus modestement un peu théâtralisé, si vous voulez, cet événement.
Janine Altounian, à la lecture du récit de votre père, on est frappé par sa mémoire phénoménale.
Oui, absolument, oui. Oui, absolument. Et je dois vous dire que j'ai évidemment lu ce texte un très grand nombre de fois. Les premières fois, c'est évidemment avec une émotion débordante. Après, dans un souci presque de l'étudier comme un texte. Mais j'ai toujours l'impression que je ne le connais pas, parce que je suis étonnée de plusieurs choses, dont par exemple ça, cette extraordinaire précision.
Parce qu'il l'a écrit 8 ou 9 ans après
non,
les événements.
Non, d'après le traducteur Krikor Belodian, il l'a écrit à son retour en France, c'est-à-dire, je crois, il dit soit août 1919, soit août 1920, je ne me rappelle pas très bien. Il l'a dit dans son article, qui est d'ailleurs très intéressant. Donc, il a dû l'écrire, bon, il avait 14 ans au début du génocide, il a dû l'écrire vers 18-19 ans.
Et il cite, par exemple, dans ses voyages, il cite les différentes gares où passe le train.
Oui.
Et c'est extraordinaire, parce que ce souvenir, après plusieurs années, du nom de chacune de ces petites localités, qu'il ne connaissait pas, qui n'a plus jamais retrouvé.
C'est une très bonne carte. Absolument, qui permet de suivre cet itinéraire spatio-temporel. Hein, puisque ça se fait, l'essentiel du voyage, il le fait en un an et demi. Puisqu'il reste 2 ans dans la dernière station.
C'est ça.
Qu'il échappe à l'enfer de Delzor, qui est l'endroit que souvent on a évoqué ici, où les dernières caravanes arméniennes connaissent une fin épouvantable, parfois brûlées vives dans des cavernes. Et c'est absolument abominable. Mais il a cette mémoire qui caractérise quand même cette génération.
Oui.
Moi, je l'ai souvent rencontré. C'est nous qui, abreuvés de lecture, de livres, de télévision, perdons un peu la mémoire des événements et des faits.
Puisqu'il y a dans ce livre une part qui provient de réflexions de psychanalystes, puisque son sous-titre, c'est « Héritage traumatique et travail analytique », je crois avoir lu dans beaucoup de textes d'analystes que lors d'un trauma, il se produit ce qu'on appelle une hypermnésie. On peut penser que ça vient également de là. Et que les survivants, lorsqu'ils racontent leur expérience, la racontent avec pratiquement toujours les mêmes mots. Par exemple, c'est ce qui se passe, paraît-il, pour les témoignages dans la Shoah.
Oui, il y a d'ailleurs des comparaisons terribles à faire entre la Shoah et le génocide arménien.
Mais aussi, par exemple, les combattants de la Première Guerre mondiale.
Oui.
Si vous lisez les mémoires des combattants de la Première Guerre mondiale, vous trouvez une précision quasi historiographique.
Et vous voyez, cette espèce de brutalité du témoignage doit être reçue dans, je dirais, le psychisme des générations suivantes, des héritiers ou d'autres lecteurs, pour avoir une dimension humaine et pour avoir une véritable portée.
Oui. Autre caractéristique du journal de votre père, aucune plainte.
Non, du tout.
Aucun pathos.
Tout. Non,
aucun même sentiment personnel.
Non.
Des faits qui
pas
qui
de cri de haine d'ailleurs non plus.
Non.
Pas de cri de haine.
Non, non plus.
Il n'en veut pas.
Non. Enfin, le seul sentiment personnel arrive à la fin lorsque je crois ils sont à Alep et il est tout content.
Oui.
Il dit comme ils sont beaux les marchés de Alep. Il est content de ce qu'il voit et il est content aussi de sa première paye. Et parce que j'étais tout content et je voulais venir voir ma mère pour lui donner cet argent. Donc le seul affect personnel, c'est un affect de libération.
Ce qui frappe aussi, c'est qu'en 1915, votre père avait 14 ans.
Oui, c'est ça.
14 ans. Et il fait preuve d'une maturité, d'un courage, d'une débrouillardise,
tout
à fait exceptionnelle.
Oui, et je dois vous dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ce sont des choses qui me sont apparues après un très grand nombre de lectures, un très grand nombre de fois. Je me suis dit, mais vraiment, il était drôlement débrouillard, ce garçon, parce que finalement, il devient, après la mort de son père, pratiquement chef de famille. C'est lui qui voit qu'il ne faut surtout pas aller là parce que là, on tue les gens, enfin, qui dirige sa mère, son petit frère. Et ensuite, c'est lui qui vient récupérer sa mère et lui donne à manger. Oui. Mais j'attribue cette débrouillardise à... Vous savez, ce qui est saisissant, c'est que moi... Enfin, je m'excuse d'entrer dans un problème, enfin, dans une situation enfin, personnelle. Mon père était quelqu'un qui ne me parlait pas. Il ne me racontait pas ces choses-là. Mais évidemment, j'avais une perception de cet homme. Or, ce qui m'a frappée quand j'ai lu ce texte, c'est que j'ai totalement reconnu cet homme. Et je pense que ne pas se plaindre, ça veut dire ne pas perdre son temps. Parce que le propos, c'est de survivre. Donc, se plaindre, s'arrêter aux affects, c'est une perte de temps. Et je retrouve là des caractéristiques de cet homme.
Oui. Autre chose, le temps compte beaucoup pour lui. Il dit, nous sommes restés à tel endroit 2 jours, 3 jours, 3 mois, 2 ans. Mais il ne remplit pas ce temps. Il n'en dit rien.
Ben oui, parce que si vous voulez, ce qui est enregistré, c'est en fait ce qu'il a fallu faire pour rester en vie. Donc, c'est comme pour les affects, c'est-à-dire que les affects ne sont pas présents, mais également ce qui s'est passé pendant ce temps-là. S'il dit « nous avons travaillé », ou bien « nous n'avons pas pu travailler », ou bien « on nous a volé et ils nous ont pillé », ou alors « ils battaient notre mère », etc. Mais ce qui est enregistré, ce sont les péripéties qui permettent de passer de la menace de mort au maintien en vie.
Il n'empêche quand même que dans le titre, enfin le titre, ça commence par 10 août 1915. Oui. Vous vous rappelez qu'on ne sait pas si c'est l'ancien calendrier ou le nouveau, mais 2 points, tout ce que j'ai enduré.
Oui,
il y a quand même ça, des années 1915 à 1919.
Oui,
tout ce que j'ai enduré 1915. Et sans déprécier les qualités du jeune Vahram, je voudrais quand même rappeler que les enfants de cette génération, les petits garçons de cette génération, étaient élevés autrement que ceux d'aujourd'hui.
Évidemment.
Que 14 ans était un âge où on considérait qu'ils étaient aptes à entrer dans la vie active quand le père avait lui-même, le père Abraham, celui qu'on va enterrer, et qu'on va enterrer décemment en lui donnant une vraie sépulture, et non pas le laisser sur les routes en pâture aux chiens ou aux rapaces, était un épicier, c'est une traduction qui me laisse un peu perplexe.
Il cultivait des roses.
Il cultivait
de l'essence de rose.
De l'huile de rose.
Oui.
Voilà, de l'huile de rose qui, dans certains autres de vos livres, la burette d'huile de rose occupe une place beaucoup plus importante que celle que vous lui avez donnée cette fois-ci ici.
C'est-à-dire que dans mon livre précédent, qui s'appelle L'Intraduisible, j'ai fait une sorte d'explication de texte de ce manuscrit. Et pour donner au manuscrit un abord accessible, je l'ai appelé un conte, un flacon d'huile de rose. Parce que la mention de l'huile de rose, qui à chaque fois sauve pour accorder un certain nombre d'heures de vie supplémentaires, parce que c'est un moyen de troquer ce qu'on peut donner contre des heures de vie ou des minutes de vie, apparaît cette fois dans le récit. C'est plutôt à vous, vous qui connaissez certainement mieux que moi, qui connaît très mal les habitudes, les mœurs et la culture de ces Arméniens. C'était donc un cultivateur de roses et qui en même temps devait avoir un commerce d'épicier, je ne sais pas.
En tous les cas, il emmène, la première chose qu'il emmène avec lui, à côté de la machine Singer,
oui.
qui n'est pas non plus une exception. Les femmes sont parties très souvent.
Ah oui, ça c'est incompréhensible.
Dans le génocide, en emmener. Mais lui amène la machine à hacher la viande.
Oui.
Dans un premier temps, va sauvegarder la famille.
Oui.
Puisqu'ils vont partout essayer de travailler avec cette machine
et
fabriquer
vendre,
du soujour ou du bastelma, c'est-à-dire des sortes de saucisses qu'on va vendre et qui vont permettre de survivre. Il y a, dès le début, dans l'héritage paternel accepté par Varam, l'importance du travail.
Ah ben ça c'est
et de l'argent gagné lié au
absolument,
travail
oui.
et de la vie sauvegardée grâce à cet argent, puisque tout le long du parcours, on découvre.
Oui.
Après, d'autres récits de vie montrent que ceux qui n'avaient pas un sou ou ceux qui n'avaient plus d'argent étaient véritablement voués à la mort. Comment très vite ils ont compris que grâce à des prébendes qu'on va donner aux gardiens, aux populations rencontrées, on va pouvoir gagner quelques jours de plus.
C'est ça. Le seul objet qu'ils ne peuvent pas échanger, c'est la Bible, parce qu'il dit qu'ils ne savaient pas ce que c'était.
Je rappelle que vous écoutez France Culture, Foi et tradition de chrétiens orientaux est consacrée ce matin au livre de Varam et de Janine Altounian, Mémoire du génocide arménien, avec comme invité autour de notre micro, donc Janine Altounian elle-même et Anaïde Termination. Varam Altounian écrit son livre aux alentours de 1920, une fois arrivé en France. Mais on ne sait pas pourquoi il écrit ce livre.
Eh bien, justement, c'est ça qui fait partie, j'allais dire, de l'impact traumatique de ce document. Parce que je raconte dans mon article, puisque j'ai moi-même écrit un article avec une partie autobiographique, ce qui m'arrive assez rarement, je raconte comment c'est un peu par hasard que 8 ans après la mort de mon père, ma mère m'a signalé ce manuscrit, que j'ai été voir cet objet, que c'est un objet qui m'a au départ effrayée, qu'ensuite je l'ai fait traduire, etc. Mais ce qui est très angoissant, c'est que c'est un objet sans parole. Et on peut dire qu'en réalité, ce livre est la parole qui lui est adjointe. On ne sait pas. Et il n'y a que Krikor Belodian qui, dans son article, émet des hypothèses en disant que, sans doute, il avait entendu parler du fait qu'à cette époque-là, on demandait aux Arméniens de laisser un témoignage.
Mais il n'y a aucune chance qu'il ait lu.
Mais oui, absolument pas.
Publié à Istanbul,
oui,
dans
évidemment,
un milieu
oui,
très
oui,
particulier,
oui,
à 200 km
oui,
de
absolument.
Là.
Absolument. Donc, je ne peux pas répondre à votre question.
Mais c'était peut-être pour rendre compte à sa famille, à ses deux frères, de ce qu'il avait enduré, justement, selon le terme
qu'il emploie.
C'est
l'hypothèse, effectivement, que émet son traducteur. D'autant qu'à la fin de ce cahier, il y a des comptes. Il y a des comptes. Et alors c'est des comptes de ce qu'il a. Alors, je reviens sur un point qu'évoquait Anaïde Termination tout à l'heure, à propos de la machine à hacher la viande. On voit également à la fin, lorsqu'il retourne dans son pays, il y a des machines, il dit j'ai vendu les machines. Donc je suppose que c'était les machines de production de l'huile de rose, de l'essence de rose. On est pris d'une sorte, c'est un miracle si vous voulez, pour moi c'est un miracle que ce texte me soit parvenu. Et c'est aussi un miracle, je dois le dire, que ce soit l'éditeur qui m'est proposé de faire paraître l'intégralité de ce témoignage en facsimilé dans ce livre. Jamais je n'aurais, moi, pensé à ça, mais j'étais amenée à le lui montrer. Et quand je l'ai montré, en fait, c'était pour dire, vous savez, le traducteur qui a traduit ça a du mérite, parce que c'est écrit en langue turque, mais en caractère arménien, qu'il a été saisi d'une émotion. Enfin, pourtant, les éditeurs sont des gens plutôt que sont des hommes d'affaires. Il a dit, mais il faut faire passer l'émotion. Et il a pris la décision de publier le fac-similé. Et je me suis dit, ça, c'est un autre miracle que je dois, me disais-je, à l'esprit républicain qui est encore présent en France.
Alors, oui, moi je dirais que je dois surtout à l'obstination, au travail mené par Janine depuis presque 30 ans maintenant.
Vrai,
on n'est plus dans les 20 années, c'est vraiment 30 ans où obstinément, à travers ce texte et à travers son propre parcours personnel, son rapport à ce père, après sa mort, puisque apparemment ce père est dénué d'affect, enfin en tous les cas dans le texte que vous écrivez à plusieurs reprises.
Oui, il ne les exprime pas.
Oui, ben c'est un taiseux, votre père, c'est un taiseux, ça n'empêche pas les sentiments de ne pas, de ne pas les exprimer. Mais en tous les cas, vous étant petite fille, vous ne les avez pas ressentis, et puisque vous avez fait allusion à l'école républicaine, combien de fois déjà dans les premiers textes, auquel vous êtes extrêmement reconnaissante. Oui. J'ai lu récemment un texte que vous connaissez peut-être, qui est celui de Mona Ouzouf.
Oui, bah c'est de la même veine.
Bon, vous l'avez lu ?
Non, mais j'ai souvent entendu parler d'elle.
C'est un texte
et
où on retrouve un peu le même parcours de cette petite fille dont le père est un militant breton, qui est mort et qui est élevé par deux femmes dans une école républicaine, sa mère étant elle-même institutrice, et qui se trouve, curieusement, par rapport à l'école française, un peu dans la même position
que vous. Tout à fait.
Et grâce à qui, d'ailleurs, elle va se délivrer, elle aussi, de l'emprise maternelle, de la tristesse, de l'enfermement que vous avez éprouvé quand vous étiez petite. Alors, je crois qu'on devrait revenir sur ce que Janine Altounian nous a dit et l'émotion éprouvée par l'éditeur, qui reproduit en facsimilé un texte écrit de façon très fluide d'ailleurs, en caractère arménien, mais dont le texte est en turc. Alors, il faudrait un peu s'expliquer sur cela, d'autant que Janine Altounian est connue par ailleurs comme traductrice de Freud, et en tant que traductrice, la traduction, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire, on pourrait dire, la transmission d'une langue dans une autre, est un élément fondamental de son existence et de sa pensée.
Oui, enfin, écoutez, je pense qu'il faudrait 2 heures pour cette émission. Je voudrais d'abord dire, puisque Nathalie Termination insistait sur mon obstination, que mon premier texte, qui est paru au Temps moderne en 1975, c'est à elle que je lui dois, parce que je suivais son séminaire et j'avais écrit quelque chose, justement sous le coup d'une émotion, à propos de la parution du livre de Jean-Marie Carzou. Je ne savais pas que faire de ce texte et elle m'a conseillé de l'envoyer au Temps moderne. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas écrire, mais les temps modernes, donc l'esprit républicain, a accepté ce texte. Mais si je n'avais pas eu son encouragement, je ne l'aurais pas porté, hein, c'est évident. Alors, ensuite, je voulais dire à propos justement du parcours de Mona Ouzouf et à propos de l'école de la République, c'est que, en fait, ce que j'ai travaillé dans tous mes textes, puisque j'ai, dans les livres précédents, fait des travaux sur d'autres témoignages, d'autres misères psychiques et culturelles. Ce qui motive mon écriture, c'est l'émotion que je ressens devant les personnes qui n'ont pas les moyens d'exprimer ce qu'elles vivent, qui n'ont pas les moyens d'exprimer ce que les générations précédentes, dont elles sont porteuses, ont vécu. C'est ce qui anime toujours mon écriture. Donc, donner la parole à ceux qui n'en avaient pas. Et en fait, l'école de la République, puisque je suis même devenue enseignante, ensuite enseignante en allemand, procurait les instruments de cette prise de parole. C'est pourquoi, dans La Survivance, par exemple, j'ai analysé le livre de Camus, Le Premier Homme, qui raconte la misère de sa famille. Et pour moi, l'élément le plus important dans cette misère, c'est la privation de langue. De langue, c'est-à-dire de pensée. Donc, autrement dit, il y a une conscience confuse de la détresse dans laquelle on vit, mais on n'a aucun mot, ni pour la penser, ni pour la dire. Et d'une certaine façon, c'est aussi la situation des survivants.
Vous êtes peut-être un peu sévère rétrospectivement pour votre famille en disant que... Mais c'est vrai que Janine Altounian a donné une voix, a donné une langue à ce livre. Et d'ailleurs, la seconde partie du livre dont nous n'avons pas parlé est portée en quelque sorte par une pléiade d'analystes. Et le texte a été traduit en français par Krikor Belediane, qui est un écrivain arménien, maître de conférences aux langues zo, qui est une personne dont on n'a plus à faire l'éloge, qui est connue en tant qu'écrivain, en tant qu'intellectuel, en tant qu'artiste. Ce qui peut-être qu'on devrait revenir sur l'importance de cette traduction. À plusieurs reprises dans ce texte et dans les textes précédents, Janine Altounian exprime son ambition, j'allais pas dire sa volonté, son ambition de porter le génocide arménien à travers cet exemple à la connaissance, je dirais presque, de l'univers, je mets des guillemets à l'univers, c'est-à-dire lui donner une place dans l'histoire de la France, dans l'histoire, dans l'histoire de l'humanité. C'est très, très ambitieux comme projet. Et une fois de plus, on revient au terme de traduction. Alors,
oui, évidemment. Bon, alors d'abord, je voudrais donner quelques précisions sur le texte de la traduction de Krikor Belediane. Il se trouve que nous avons travaillé en préparant ce livre par mail plusieurs fois et je dois dire que les notes qui sont dans sa contribution à lui et qui sont aussi au bas de la traduction du texte du manuscrit sont extrêmement importantes. Ce sont des notations géographiques, historiques. C'est extrêmement riche et c'est parce que je souhaitais que l'éditeur prenne en compte ces notes qui porte ce texte, qui traduit ce texte au niveau justement universel. Sans ces notes, ce texte ne serait pas universalisable. Et c'est parce que j'insistais là-dessus que j'ai apporté le manuscrit à l'éditeur en lui disant « Voyez, ça, on ne peut rien en faire s'il n'y a pas un traducteur avec des notes semblables. » C'est à ce moment-là donc qu'il a eu cette idée. Bon, alors par ailleurs, traduire. Oui, c'est pas que je sois sévère, c'est parce que pour exprimer sa détresse, sa misère, il faut avoir un « je », comme diraient les psychanalystes, c'est-à-dire faut être constitué, structuré, à partir de quoi on peut se dire. Or, pour cela, il faut d'abord jouir d'une sécurité. Si vous êtes sous menace de mort constamment, vous ne pouvez pas constituer votre « je » tranquillement. Il faut de la culture, il faut de l'instruction. Donc, ce sont ces moyens-là dont ils sont privés.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait votre deuil ?
Deuil, ça ne veut rien dire, vous savez. Ça dépend des moments. Regardez, par exemple, tout à l'heure, quand Anaï Termination a dit qu'il ne restait plus rien de ce monastère, j'ai été saisie d'une émotion. C'est-à-dire que je n'accepte pas ces destructions. Donc, de même que je ne les accepte pas quand, dans l'histoire d'autres peuples. Donc, non, ça veut rien dire, non. Faire le deuil, non.
Eh bien, je rappelle le titre de l'ouvrage publié par les presses universitaires de France, « Mémoire du génocide arménien ». Janine Altounian, je vous remercie, ainsi qu'Anaï Termination, comme je remercie Michel Mestre et Brigitte Mazir, qui ont réalisé cette émission de « Foi et tradition des chrétiens orientaux ». Ne nous quittez pas, France Culture continue avec le service protestant présenté par Michel Schaeffer.